Aujourd'hui, je vais faire je vais expliquer un concept.
Ouais.
C'est-à-dire, on va faire un peu. Disons que je vais faire de la géographie aujourd'hui. D'accord. Mais en fait, je vais vous demander au départ, l'idée, c'est d'avoir un échiquier vide. On va déjà commencer par voir les phases d'une partie d'échecs.
OK.
C'est-à-dire que depuis la nuit des temps des échecs, les grands joueurs, qui c'était aussi souvent les grands écrivains du temps, ils ont divisé toute partie d'échecs en trois parties distinctes. Alors, il y a l'ouverture, le milieu de jeu et la finale. L'ouverture, c'est la phase où les pièces sortent. Le roi se met à l'abri dans son roque. C'est la phase préparatoire à toute activité future. On amène son armée sur le terrain. Et pour donner un parallèle au foot, ce serait amusant, ce serait, on va pas commencer à lancer une attaque alors que la moitié de son armée est encore au vestiaire. C'est, on commence déjà par mettre son équipe sur le terrain. Dans le milieu de jeu, c'est là où la bataille, on a des pièces qui sont en activité, il y a les, on manœuvre, on se regroupe, on charge, on fait retraite. Enfin, tout cela dépendant de l'activité des pièces qu'on a héritées de l'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, le milieu de jeu est dépendant de ce qu'on a amené comme pièce dans l'ouverture et à quelle position on les a amenées. Et dans la finale, c'est quand on a perdu la moitié de nos troupes, l'adversaire aussi, et puis ben, on essaye de valoriser les petits avantages minimes qu'on peut avoir. Et ce sont des manœuvres, ce sont souvent très très techniques, parce que ce sont souvent de petites troupes avec peu de mobilité, et on fait avec. Voilà. Mais bon, c'est évident, comment dire, des phases, c'est pas toujours exactement comme ça que ça se passe. Il y a des fois où il y a des ouvertures qui me conduisent directement à des finales. Il n'y a pas de milieu de jeu. Je veux dire, un grand spécialiste de ça, c'est Ulf Anderson, qui a des ouvertures qui enlève très vite deux paires de pièces mineures et puis une dame. Et il gagne avec des finales de tour, des trois quarts du temps. Et il y a aussi là où il n'y a pas de finale, c'est-à-dire ben, on s'est fait avoir soit dans le milieu de jeu, soit dans l'ouverture, même ce qui arrive. Et très souvent, ben, en fait, tout dépend de la position de nos pièces. Je voudrais essayer de rallumer, mais bon, je n'ai pas besoin de voir. Alors, pour aujourd'hui, on va regarder l'ouverture. Mais avant de parler d'ouverture proprement dit, on doit d'abord regarder sur quoi on parle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder le terrain sur lequel on travaille. Alors bon, ben ça, tout le monde est au courant que c'est un carré de 8 cases par 8 cases, alternativement blanche et noire, on est d'accord. On sait que, ben, voilà, ça fait 64 cases. Seulement, on pourrait se dire, est-ce que toutes ces cases sont vraiment égales? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, dans la géographie, est-ce que la case A1 et la case D5 sont égales? Ben, on pourrait dire oui, mais on va y mettre une petite différence. On va d'abord commencer par prendre une tour et on va la placer n'importe où sur l'échiquier. Alors, je vous laisse faire. Peu importe. J'ai Élise à côté qui me demande si c'est une noire ou une blanche. Peu importe. Mais comme c'est bien que j'ai Élise à côté, ça me permet de voir à peu près le temps que. Et bon, on s'aperçoit si on compte le nombre de cases que cette tour contrôle. Alors, contrôler, ça veut dire que la tour a dans sa vision, je dirais. C'est-à-dire que la tour peut voir. En fait, elle contrôle 14 cases. Une tour. 7 sur une rangée, 7 sur une colonne. Parce qu'elle ne contrôle effectivement pas la case où elle est. Aucune pièce ne contrôle la case où elle est placée. Puisque justement, elle peut se faire manger sur cette case. Alors, ça peut paraître des choses évidentes, mais bon, on a 14 cases pour une tour. Maintenant, on va regarder une chose, c'est peu importe où on place la tour sur un échiquier, elle contrôlera toujours 14 cases sur un échiquier vide, bien sûr. C'est-à-dire, où que je la mette, dans un angle, dans un autre angle, elle contrôlera toujours 14 cases. Et ça, c'est une constante. Maintenant, on va la remplacer par un fou. Alors, le fou, on va le mettre en H1 au départ. On enlève la tour. Alors, on s'aperçoit que de H1, il contrôle cette case. Donc, à partir de là, on va le prendre, on va le mettre en G2. On va lui faire parcourir une case en diagonale. Et tout d'un coup, il contrôle deux cases de plus. C'est-à-dire les cases F1 et H3.
Hector.
Ah, Hector 3
Félix.
et Félix 1.
Ah oui.
Si on le remonte encore à S3, ce fou, il va contrôler 11 cases maintenant.
Il va contrôler.
Il va contrôler. Alors là, il me faudrait la petite. Tu l'as pas la petite feuille
Je.
tu l'as?
Attends, je le dis, il contrôle
D1.
D1. E2,
E2.
Eva2,
G4.
Gustave 4 et Hector 5.
Et Hector 5 en plus. Voilà. Donc en fait, si on le met maintenant sur E4 ou D5,
Voilà.
ce fou,
Voilà.
ben on va contrôler de ces deux cases-là, parce qu'elles sont situées exactement au centre, le maximum de cases que peut tenir un fou, c'est-à-dire 13 cases. Voilà. Donc, et il ne peut faire ça que des cases D4, E4, D5 ou E5. Un fou. Ça peut être ça, c'est-à-dire ça peut être un fou noir ou un fou blanc, mais il n'y a que ces quatre cases-là qui permettent à un fou de contrôler 13 cases. C'est-à-dire son maximum. Alors, je sais que ça peut paraître absurde de faire remarquer ça, mais bon, on va voir que ça a quand même son importance. Maintenant, on va remplacer ce fou par une dame.
La dame, on la met où?
Oh ben on peut la mettre, bon mettons la D5 tout de suite. En D5, D4, E4, sur une des cases centrales. En fait, il suffit de faire un calcul simple. On a une dame qui combine à la fois la marche de la tour et la marche du fou. C'est-à-dire que vis-à-vis de la tour, où qu'elle soit placée sur l'échiquier, lorsqu'on prend que sa marche de la tour à la dame, on a 14 cases de disponibles. Plus, soit 7 cases, 9 cases, 11 cases ou 13 cases du fou. Donc en fait, la dame a son maximum, c'est-à-dire sur une des quatre cases centrales, c'est-à-dire E4, D4, E5, D5, bah, sur une de ces quatre cases, elle contrôle 27 cases. C'est-à-dire les 14 cases de la marche de la tour et les 13 cases de la marche du fou. Donc en fait, on vient de mettre, grâce à ces petites démonstrations, une zone de l'échiquier qui correspond aux 4 cases, E4, D4, E5 et D5, qui sont ce qu'on appelle le centre de l'échiquier. C'est là où les pièces ont le maximum d'activité, en fait. Et on va découvrir par la même façon, de cet endroit-là, on s'aperçoit que chaque pièce qui est là, est à égale distance de partout. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien entrer en défense avec une pièce qui se trouverait à cet endroit, ou aller en attaque. C'est ce qu'on appelle le centre. Alors c'est idiot, mais ce centre, c'est justement, c'est le premier but d'une ouverture. Et c'est normal, puisque c'est là d'où nos pièces, si on a conquis cet endroit-là, c'est là d'où nos pièces donnent le maximum de leur puissance. Donc, c'est le principal but, un des principaux buts de l'ouverture, c'est ça, c'est le centre. Et comme on connaît ce but-là, ben on peut déduire les autres buts. En fait, les autres buts, comme je l'ai dit, ça relève simplement de la philosophie des affaires échiquéennes. Il y a le développement. Le deuxième but de l'ouverture, c'est le développement. C'est-à-dire se développer, c'est-à-dire mettre ses pièces, placer ses pièces le mieux possible pour pouvoir gérer tout le terrain. Ça relève un peu du précédent, puisqu'on sait que c'est au centre qu'elles seront le mieux placées. Si on conquiert le centre, on pourra placer nos pièces en fonction du centre, et donc il faut développer nos pièces. Les pions, quant à eux, effectivement, il y en a deux qui sont importants, c'est les deux pions centraux. L'autre découle aussi de l'activité des pièces au centre. Si tout se passe par le centre, le roi au départ est sur des colonnes centrales. Donc si on ne veut pas être pris au centre avec son roi, il va falloir l'écarter de l'endroit où se passe la bataille au départ. Donc, c'est-à-dire, on va s'occuper de la sécurité du roi. En fait. Donc, en fait, dans chaque ouverture, il y a trois éléments principaux. C'est le contrôle du centre, le développement des pièces et la sécurité du roi. Toute ouverture doit inclure ces trois éléments. Alors, maintenant, on va prendre une pièce à part, on va prendre le cavalier, et on va placer les quatre cavaliers, si on peut, sur leur case de départ.
Ça y est.
Alors, on prend le cavalier qui est en G1 et on s'aperçoit qu'il contrôle trois cases. C'est pour ça qu'on va voir que le cavalier est une pièce très particulière. Il contrôle trois cases. C'est-à-dire, il contrôle la case E2, la case F3 et la case H3. Et toutes ces cases-là ne sont pas égales. Non plus. Si on prend le cavalier et qu'on le met sur H3, il va contrôler en fait 4 cases. Alors, il va contrôler la case d'où il vient, c'est-à-dire G1, il va contrôler F2, il va contrôler F4 et il va contrôler G5. Alors, là-dedans, toutes ces cases ne sont pas égales. Il y en a qui sont dans notre camp, c'est-à-dire dans une moitié de l'échiquier qui est vers nous, parce qu'on va le diviser aussi en deux, cet échiquier, en faisant une moitié chez lui et une moitié chez nous. Donc, on a une case, par contre, qui est intéressante pour ce cheval qui est en H3, c'est qu'il contrôle G5, chez l'ennemi. C'est pas mal. On va maintenant le ramener en G1, c'est-à-dire sur sa case de départ, et on va voir, on va le mettre en E2. Alors, de E2, il va contrôler 6 cases. Il va contrôler C1, C3, D4, F4, G3 et G1 d'où il vient. Et on s'aperçoit qu'en fait, de toutes ces cases, il n'y en a peut-être qu'une qui a de l'intérêt. C'est la case de D4, parce que c'est une case centrale. Donc ça peut effectivement être intéressant d'avoir ce support sur la case centrale. Maintenant, on va ramener ce cavalier en G1 et on va le mettre sur F3. Et de là, on va s'apercevoir que tout d'un coup, ce cavalier, il donne sa pleine puissance, déjà. C'est-à-dire, il va contrôler le maximum de cases que peut contrôler un cavalier, c'est-à-dire 8. C'est-à-dire, il va contrôler E1, D2, D4, E5, G5, H4, H2 et G1. Ça fait une rosace. Ça fait une espèce de cercle, une rosace, comme on appelle. Et au merveille, ce cavalier de la position où il est, il contrôle non seulement deux cases dans le camp adverse, qui sont les cases E5 et G5, mais en plus de ça, il contrôle deux cases centrales, c'est-à-dire D4 et E4. Si on regarde, c'est la meilleure position pour un cavalier. C'est-à-dire quand on le prend et qu'on l'amène sur la troisième rangée vers le centre. Et on peut voir que tous les cavaliers qu'on a placés sont égaux. Il suffit de les prendre et de les amener sur la troisième rangée vers le centre, c'est-à-dire en F6 pour celui qui est à l'opposé, C6 pour les deux cavaliers noirs et C3 pour le dernier cavalier blanc. Et on obtient ainsi 8 cases contrôlées, dont 2 centrales et 2 chez l'adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît les 4 meilleures cases des cavaliers. On sait, c'est pour ça que dans l'ouverture, vous avez dû entendre plusieurs fois, on joue les cavaliers avant les fous. Ça s'explique parce qu'on sait déjà que les meilleures cases des cavaliers sont là. Alors, maintenant, ça va nous amener à quelque chose de direct. Vous avez tous entendu parler de la valeur des pièces. Alors, la valeur des pièces, on vous dit, on va prendre le pion qui vaut 1. On va dire le cavalier, ça vaut 3. Le fou vaut 3. La tour vaut 5. Et la dame, ça vaut 10. Et en fait, on peut se demander pourquoi. Ben, en fait, c'est simple. Il suffit de prendre comme base la tour vaut 5 et la tour contrôle 14 cases. La dame vaut 10, c'est-à-dire pratiquement deux fois plus, et elle contrôle 27 cases, c'est-à-dire quasiment deux fois plus. Le fou contrôle, lui, 13 cases dans la meilleure possibilité, mais il ne contrôle que la moitié de l'échiquier. Un fou blanc sera toujours blanc, alors qu'une tour peut changer de couleur, peut changer de case qu'elle le surveille. Donc il nous faut pratiquement deux fous. Donc ça a réduit sa valeur. C'est-à-dire, il fait presque la même chose qu'une tour, mais il le fait que sur une moitié de l'échiquier. Donc ça a réduit la valeur. Et le cavalier, vous allez me dire, lui, il contrôle que 8 cases. Mais le cavalier, si on regarde bien, il a un avantage énorme. Où qu'il soit placé, il contrôle toujours les cases qu'il voit. Tandis que si on prend un fou, qu'on le met, mettons, on va mettre le fou en C8. On va mettre un fou noir. Hein. On va mettre un fou en C8. C'est un fou blanc, oui, enfin deux cases blanches, mais c'est le... Et on va mettre un pion en D7. Ce fou-là ne contrôle que 3 cases. Alors que le cavalier, vous aurez beau le noyer de pions autour de lui, il contrôlera toujours 8 cases. C'est pour ça que lui aussi, il vaut 3. Parce que lui, quand il contrôle 8 cases, il les contrôle fermement, alors que le fou, c'est pas tout le temps. Il suffit qu'il soit empêtré dans ses propres pions. Donc en fait, on s'aperçoit que l'activité des pièces, ça a donné la valeur des pièces. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit une tour vaut 5, il suffit qu'elle soit très très mal placée ou très 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 ennuyée pour que cette tour ne vaille plus rien. En fait, elle va dépendre de l'activité qu'elle amène dans le jeu. Et en fait, l'activité, ça va être un peu le but de l'ouverture. C'est que chaque pièce obtienne l'activité maximum selon la structure des pions qu'on aura au départ. Alors ben, maintenant, on va voir d'ailleurs que ces valeurs aussi, pardon, avant que je passe à autre chose, la valeur, elle vaut aussi pour les échanges. C'est-à-dire, on dit, une dame vaut 2 tours. Et effectivement, si on calcule en valeur d'activité, une dame qui contrôle 27 cases vaut bien 2 tours qui contrôle 28 cases. Je dirais même qu'il y a L2 ne contrôle en fait pas 26 cases, puisqu'elles sont redondantes. C'est-à-dire, si je mets une tour en A8, par exemple, deux tours de même couleur, on va mettre une en A8 et une en H1, par exemple, 2 tours noires, chacune d'elles contrôle... Elles contrôleront chacun 14 cases. Mais les cases A1 et les cases H8 seront contrôlées 2 fois. Donc en fait, à L2, elles contrôleront en fait 28 moins 2, 26 cases. Ah. Au total. Puisqu'il y en a 2 qui seront contrôlées 2 fois. Donc en fait, ça ne dépend de l'activité. Bon, il n'y a qu'une pièce sur laquelle on ne peut pas donner de valeur elle-même, c'est le roi. Parce que le roi, vous ne pouvez pas l'échanger. Si on échange le roi, on est un peu embêté. Est-ce qu'il y aurait des questions là ?
Là, c'est-à-dire, là tu as donné la valeur des pièces uniquement à la mesure du nombre de cases qu'elles contrôlent, mais...
Ben oui.
D'autres aspects quand même, par exemple, tu peux pas mater avec une dame seule, mais tu peux mater avec 2 tours.
Ah ben si, on peut mater avec une dame seule. Oui, il y a toujours le roi, on est censé avoir toujours le roi. Là, je n'ai pas fait mettre les rois. Mais les rois, c'est les 100 rois, on ne peut pas faire une partie d'échelle. Ou alors, moi je veux bien enlever le mien, je suis sûr de gagner. Okay. Puisque je ne peux pas être maté. Donc, en fait, avec une dame, alors justement, tous ceux qui vont m'envoyer sur mon mail leurs coordonnées, parce que moi j'attends de recevoir par mail les coordonnées, je vais leur envoyer un petit test que j'ai préparé pour savoir à peu près le niveau. Vous en êtes.
Oui.
Alors c'est un truc qui est beaucoup basé sur les finales en fait. Mais on va voir, c'est vital selon les niveaux. Donc en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut mater avec 2 fous et un roi. Moins avec d'autres pièces, effectivement. Avec le cavalier par exemple. Donc. En fait, on n'est pas parti sur les finales tout de suite. On va surtout voir maintenant, je vais vous laisser le temps de placer vos échiquiers sur un début de partie, enfin sur une position de base. Et on va voir le développement en fonction du centre. Puisque j'ai introduit ce concept de centre qui est vital dans tout le domaine des échecs. Alors, par défaut, on va se mettre du côté des blancs. Ce qu'il faut surtout avoir, je ne sais pas si dans ce que j'ai dit avant, ce qu'il faut surtout voir, c'est ce concept du centre. qui est d'une importance capitale. C'est un peu comme si pendant... je sais pas si vous avez peut-être entendu des films de guerre, des... généralement, il y a toujours la fameuse colline qu'on doit investir parce que de là, on surplombe l'ennemi et on va pouvoir ainsi prévoir tout le, voir toutes leurs actions. Ben, c'est un peu ça. C'est la, le centre, c'est la fameuse colline qu'on doit à tout prix investir ou garder, hein, si, on, si on la dispose soi-même. Alors, on va commencer avec... On va voir comment, dans une ouverture, ce concept de centre et de développement des pièces, ça se marie fort bien, puisque c'est la base. Alors, on va commencer par jouer Eva 2, Eva 4. Alors là, je respecte vos... Voilà, Eva 2, Eva 4. Et les noirs. Alors, là, il faut voir une chose. On va tout de suite s'arrêter. Il faut voir une chose, c'est que si les noirs nous laissaient la possibilité de jouer... Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous joueriez. En sachant que vous allez avoir ce concept de centre.
David 4.
Ben oui. Parce qu'avec les deux pions, effectivement, en Eva 4 et David 4, il garderait chez l'adversaire les cases César, je ne sais pas si c'est César.
Oui,
César 5, David 5, Eva 5 et Félix 5. C'est énorme, c'est toute une rangée chez l'ennemi, 4 cases complètement prises, rien qu'avec les deux pions, David 4 et Eva 4. Alors, les noirs, ça, on appelle ça un duo central, quand on arrive à placer ces deux pions-là. Et il y a beaucoup d'ouvertures où l'idée... c'est de placer ces deux pions-là. Alors, on va voir que pour empêcher que on joue David 4, il y a beaucoup de réponses simples qu'on a tous rencontrées dans les parties d'échecs. C'est premièrement de jouer Eva 5. En jouant Eva 5, on empêche David 4. Mais si on ne joue pas Eva 5, c'est-à-dire on enlève Eva 5, on va s'apercevoir que César 5, ce qu'on appelle la Sicilienne, est aussi une option qui nous empêche de jouer David 4. En fait, et ce sont bizarrement les deux réponses les plus jouées contre E4, enfin contre Eva 4. Donc, c'est pas pour rien. C'est justement parce que les Noirs cherchent à nous empêcher d'atteindre le duo central. Donc là, donc après Eva 4, on va jouer Eva 5, cette fois. Les noirs ont joué Eva 5. Et là, on va jouer cavalier Félix 3. Alors, comme on l'a vu avant, ce cavalier, on sait que c'est sa bonne case pour le développement. Mais en plus de ça, ça a un autre avantage. Ça nous donne ce qu'on appelle l'initiative, je dirais. C'est pas une initiative très durable, c'est ponctuel. Mais on attaque le pion E5. Le pion qui est en Eva5. Donc à partir de là, les noirs sont obligés de faire quelque chose. Alors, il y a plein de réponses pour contrer cette attaque. Ils pourraient jouer F6. Ce qui a une très mauvaise réputation, il y a même une variante où c'est démontré comme faux, d'accord. Il pourrait jouer Félix 6 pour garder le pion E5, il pourrait jouer David 6 pour jouer le pion E5, il pourrait aussi jouer fou David 6 pour jouer... fou David 6 ou Dame 7, mais Dame 7, ça a aussi le désavantage de... c'est pas trop le boulot d'une dame de garder juste un pion. Et on s'est aperçu que la meilleure des réponses, c'était de garder le pion en développant une pièce et en jouant cavalier César 6. Voilà, on a développé une pièce, on a protégé le pion. Maintenant, les noirs, les blancs, vont chercher à remettre de la pression au centre. Puisque c'est le but. Et les blancs ont l'avantage du trait. C'est eux qui mettent de la pression au départ. Alors, il y a plusieurs solutions. On peut jouer fou César 4, par exemple, qui met de la pression sur la case Félix 7, qui est une case qui n'est gardée que par le roi. C'est la case la plus faible du jeu pour l'instant. Ou alors, on peut encore faire pression sur le pion E5. C'est-à-dire que ce pion E5 qu'on attaque avec le cavalier et qu'il a défendu avec son cavalier, bah, on pourrait très bien jouer fou. Alors, BC.
BC.
Bernard, non?
Non, Bella.
Bella, on peut jouer fou Bella 5. Fou Bella 5. Pour attaquer le cavalier. Justement, ce cavalier qui défend le pion, qui est en E5. Et ce pion qui est au centre et qui nous empêche d'avancer le pion D4 pour faire un duo. Alors là, les noirs ont plusieurs solutions. Ah.
Non.
C'est pas nous ?
Non.
Ah. Donc, les noirs ont plusieurs solutions. C'est soit ils défendent ce pion d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire souvent D6. Non, c'est les noirs peuvent jouer, mais on s'est aperçu que c'était pas formidable, en fait. Et les noirs ont préféré poser tout de suite la question au fou, en disant, je joue Anna 6. Je pose la question au fou, est-ce que tu veux rester là ou est-ce que tu veux t'échanger contre mon fou, contre mon cavalier? Alors, il existe la variante où le fou se retire en A4 et ça donne tout ce qui est les Siciliennes un peu fermées, les Espagnols un peu fermés, parce que c'est l'ouverture qu'on voit avec fou Bella 5, c'est l'Espagnol. Et il existe cette variante qu'on va voir tout de suite qui est fou mange cavalier en César 6.
Ouais.
Alors, je vous laisse voir un petit peu comment vous reprendriez ce fou.
Bon, je reprendrai D7, moi.
Avec
David 7.
Avec David 7.
Moi, je prends avec Bella 7.
Alors, la prise avec Bella 7, ça fait qu'on peut manger le pion.
Oui.
Et c'est vrai que on a tendance à... Il y a une règle, comme ça, une règle générale qui dit on mange vers le centre. Et pour une fois, exceptionnellement, c'est pas le cas. Il y a des fois où on ne mange pas vers le centre. Et là, exceptionnellement, ils vont manger avec le pion D7. Avec le pion David 7. Mange César 6. Et ça, c'est uniquement parce que si maintenant les blancs avaient la mauvaise idée de venir manger le pion en Eva 5, bah, les noirs joueraient simplement Dame David 4 en attaquant le cavalier et le pion. Et les deux ne peuvent pas être défendus en même temps. Donc ils récupéreraient le pion en plus avec un échec. Qui serait dommage. Ce qui est en fait une... Alors, question suivante, c'est comment feriez-vous pour dire « Moi, j'ai toujours envie de manger ce pion-là. » Quel serait le coup des blancs pour dire « J'aimerais bien manger le pion qui est en Eva 5. »
Cavalier César 3.
Alors, il y a cavalier César 3 qui permettrait, oui, effectivement, d'empêcher la dame de venir en... De... Bah non, ça... Oui, ça protégerait notre pion.
De prendre le pion E5, E4.
Oui, ça permettrait... ça permettrait d'éviter la prise du pion E4, mais...
Moi, je prendrais... Je ferais D4, non?
Dégâts tout de suite?
Non. On veut pas.
Ah. Oui, ça pourrait peut-être marcher. C'est peut-être un peu trop tôt. En fait, on a envie de mettre les noirs sur la défensive. Il est plus facile pour les... Attends, on remet le cavalier en B1. Mais il est plus facile quand même pour les noirs de dire, bah, ce qui m'embête, c'est si je mange le pion en F5, il va y avoir dame, David 4, et je perdrai mon pion qui est en Eva 4. Je vais quand même protéger mon cavalier. Je vais quand même ramener mon cavalier. Et en plus, ce sera sur échec.
Oui.
Donc ce sera très embêtant. Alors en fait, là, les blancs vont tendre un petit piège au noir. Ils vont faire roc, les blancs. Et maintenant, les noirs sont obligés de faire très attention. Parce que là, je menace de prendre le pion. De le manger réellement. C'est-à-dire, admettons, on va supposer que des noirs jouent mal et qu'ils vont jouer, je ne sais pas, H6 au pif. Hein, on va garder la... Maintenant, je mangerai en Eva 5 avec mon cavalier. Et s'il joue Dame D4, enfin Dame David 4, je ramènerai mon cavalier en Félix 3, en attaquant la dame. Et s'il mange mon pion E4 maintenant, mon pion Eva 4, ben il n'y a pas échec.
Ouais.
Donc ça me permet de mettre ma tour en Eva 1 et de clouer sa dame sur le roi. Et les noirs qui croyaient avoir récupéré leur pion, ben, se retrouveraient avec une dame de moins. Donc, on est en train de dire... Alors, on remet des pièces sur la... Est-ce qu'il y en a qui ont... Ça va? Il n'y a pas de problème à remettre les pièces sur les cases où il faut que je redonne la position? Remettre là, le pion ici, ça c'est le pion blanc, ici, puis le noir aussi.
Donc on remet la position juste après D7, prend C6.
Juste après D7, prend C6, voilà.
Ok.
Alors 5 D4 à la place de Roc, ça marchait, hein. Je ne dénigre pas D4, hein. Simplement, la défense pour les noirs est plus facile qu'après le roc des blancs. Donc là, on a quand même fait le roc des...
On laisse le roc
Oui. Après D mange C6, enfin après David mange César 6, on fait le roc. Les blancs font le roc. Les noirs, maintenant, savent qu'il faut s'occuper de leur pion. Sans ça, leur pion, on sera perdu. Donc, il y a fort peu de solutions, en fait. Et il y a un coup de développement qui est très, très logique. C'est de jouer fou David 6. Non seulement on prépare... Non seulement on prépare le petit roc. Attends, il n'est pas là. Non seulement on prépare le petit roc, c'est-à-dire on est à un doigt de le réaliser, il suffit encore de sortir le cavalier. Et bon, et on défend ce pion qui est attaqué. Maintenant, les blancs doivent se développer. Ils doivent se développer en occupant le centre. Alors, il faut voir ce qu'ont réalisé les blancs. Ils ont doublé des pions à l'ennemi, enfin au noir. Ils ont développé leur roi et roqué. Ils ont mis leur roi en sécurité. Maintenant, il faut qu'ils continuent à se développer. Et si on regarde bien, à l'aile dame, toutes les pièces sont encore là. Donc, il va falloir développer toutes les pièces de l'aile dame, histoire de... Et là, il y a un moyen d'aller très très vite. Alors, dans les variantes fermées de la sicilienne, on jouerait D3, pour avoir le temps de pousser C3, puis D4, pour essayer d'attaquer.
Mais, de l'espagnol, tu veux dire.
De l'espagnol, oui, excuse-moi, je me trompe, c'est de l'espagnol, hein. C'est de l'espagnol. On jouerait D3 pour avoir le temps de jouer C3 et D4 par la suite, pour essayer de faire ce duo central. Mais là, l'espagnol d'échange, variante d'échange comme on a là, ne s'y prête pas du tout. L'idée n'est pas du tout là. Et Fischer, lorsqu'il a remis ça à la mode, bah, il a trouvé un peu comment gagner cette position-là, comment créer suffisamment de problèmes au noir pour gagner. Alors en fait, on va jouer D4. Ça accélère le développement et ça pose tout de suite une question au pion D, au pion Eva des noirs. Et bon, bah, la réponse la plus logique, c'est quand même Eva mange David 4. Alors là, je vais vous laisser calculer le comment vous reprendriez, sachant qu'il y a deux possibilités. Il y a cavalier Félix 3 mange David 4 ou dame D1, D, oui, David 1 mange David 4.
Oui.
Il y a des idées. Bah, en fait, on va reprendre tout simplement pour garder l'initiative et pour continuer à poser des problèmes au noir, on va prendre avec la dame. Parce que le cavalier, la prise avec le cavalier peut se faire, mais elle est beaucoup plus lente. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les noirs ont le temps de répliquer, de préparer leur roc et tout le reste. Là, on pose tout de suite une question aux noirs. On leur dit, j'attaque le pion qui est en Gustave 7. Et on les oblige à prendre une décision. Et généralement, ben, la décision, elle est un peu triste. On est pratiquement obligé de jouer F6. On est obligé de jouer F6. Oui. Alors, pourquoi on peut pas jouer cavalier Félix 6.
Mais il y a une fourchette.
Bah oui, parce que dans ce cas-là, il y a E5. Le pion avance en E5 et fait une fourchette entre le fou et le cavalier. Donc, le seul moyen de défense de ce pion... G7, enfin Gustave 7, c'est de jouer Félix 6. Félix 7, Félix 6.
Félix 7.
Oui, Félix 6.
Félix 6.
Ah oui, sans ça, les blancs, si tu avais joué le cavalier, les blancs auraient joué Eva 5, en faisant une fourchette entre le fou et le cavalier.
Alors, on joue Félix 6.
Félix 6. On va désormais... Enfin, on va finir là. Pour l'instant, je vous finirai la partie la prochaine fois. Mais on va juste faire une chose avant de se quitter. On va enlever toutes les pièces de l'échiquier. On va laisser les rois et les pions. On enlève toutes les pièces de l'échiquier tout d'un coup. Et on va voir ce qui s'est passé réellement dans cette partie. Alors justement, c'est là où je vais vous proposer, c'est soit de jouer ça, si vous pouvez vous arranger entre vous, ou si certains sont dans des clubs. Alors je sais que ce que je vous demande, là, ça paraît amusant, hein, on enlève toutes les pièces de l'échiquier, sauf les rois. On garde les pions et les rois.
Ouais.
Encore ces deux-là. Voilà. Et maintenant, il faut regarder ce qui s'est passé sur l'échiquier. Regardez. On a à gauche, quand on est du côté des blancs, on a à gauche trois pions On a une ligne, on a une colonne centrale qui sépare l'échiquier en deux, c'est-à-dire la colonne David, qui sépare l'échiquier en deux. Et on a, à gauche de cette colonne, trois pions contre quatre. Ouais. On a les pions Anna, Bella et César, 2, contre Anna, 6, Bella, 7, César, 7 et César, 6. On a des pions doublés. Et le fait que les pions soient doublés là, ça nous donne un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça que si vous pouviez le jouer contre d'autres, essayez de jouer simplement ça, vous enlevez toute l'autre partie, vous enlèverez, pas tout de suite, hein, mais vous essayerez de jouer un coup une partie, la partie gauche contre quelqu'un, avec juste les rois et la partie gauche, et vous vous apercevrez à la longue que de toute façon, ça, c'est nul. Ça s'annule. On ne peut pas réussir, les noirs ont un pion de plus du côté de l'aile d'âme, et ne peuvent pas le concrétiser. Parce qu'en fait, on arrive à faire en sorte que ces pions-là ne puissent pas passer parce qu'ils sont doublés. Par contre, si on regarde le côté maintenant droit, on s'aperçoit que là aussi, on a une majorité 4 contre 3, mais sans les pions doublés.
Ouais.
Et ça, normalement, si vous le jouez, c'est gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivera à jouer, on va avancer les rois, chacun. On jouera, si on oublie l'autre côté qui va être nul, on jouera Félix 4, Félix 2, Félix 4, puis Eva 4, Eva 5. Et s'il avance son pion ou s'il prend, on aura un pion passé. Bien sûr, on aura rapproché notre roi pour qu'il ne puisse pas le manger, le pion. Donc, les blancs finiront par avoir un pion passé, là. Et on verra comment jouer cette partie-là. Si vous arrivez à jouer la partie à gauche, vous verrez que la partie à droite se joue très très facilement. Il faut juste prévoir de ne pas se faire manger le pion quand il sera, par exemple, là, si on avait juste joué Félix 4, puis Eva 5, il ferait F mange, il ferait Félix 6 mange Eva 5, on ferait Félix 4 mange Eva 5. Par contre, le roi adverse, si on les laisse sur leur position de départ, ben le roi noir pourrait arriver à manger le pion. Avant qu'on n'ait plus eu les moyens de le protéger. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Voilà. Donc, on va rester là pour aujourd'hui. S'il y en a qui veulent que je leur donne une petite position pour réfléchir, je peux le faire. Mais je pense que là, rien qu'avec ces deux parties de l'échiquier, juste les pions, c'est déjà un bon travail. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de jouer la partie gauche.
D'accord.
Avec juste les rois, on enlève la partie droite, on garde que les rois. Puis d'essayer de faire l'inverse, après de jouer la partie droite avec les rois, et de voir qu'effectivement il y a une partie qui s'annule d'elle-même. Alors je ne sais pas comment vous pourrez le faire, mais s'il y en a qui veulent l'étudier juste comme ça sur l'échiquier, c'est toujours un très bon exercice. C'est toujours excellent de travailler soi-même là-dessus. On voit des choses qu'on ne verrait pas d'habitude. Et moi, je vous prépare une solution pour la prochaine fois. Et la fin de la partie. J'ai déjà fait la fin de la partie, j'y suis pour rien. Mais c'est pour montrer que, voilà, ce sont souvent des idées simples et tout va passer par le sang. Voilà. Fini pour aujourd'hui. Alors, je répète le mail. S'il y en a qui... C'est Dom Échec D-O-M échec comme échec avec E-C-H-E-C-S at Gmail, gmail.com. Et sachez que c'est réservé justement aux échecs. C'est, j'ai créé ce compte juste pour vous.
D'accord, bah voilà.
Comme ça, au moins, je sais que tous les messages qu'il y aura dessus seront forcément des messages que qui rentreraient à vous.
D'accord.
Voilà, donc on s'arrête là. On verra la fin de la partie après. Et justement, par contre, je viens de vous montrer l'idée de la fin de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire en sorte d'éliminer les pièces et de n'avoir qu'à passer le pion. Et on va voir comment les blancs vont gérer ça.